Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Erchin, page 7, Daf Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Demande la Gemara, Michlal Tanakama Savar Nitan de Chazarat Amidat Bedin. Est-ce que de là on pourra comprendre que d'après la première opinion, on pourra oui le faire retourner pour comparaître devant le tribunal pour la blessure qu'il a fait? Comment ceci est possible? Ça serait un déni de justice. Et sur cela, Amar Rav Yosef, Bemilve Alpe Gove Minayorshim, Kamifnege, Tanakama Savar, Milve Alpe Gove Minayorshim, Verabi Shimon Menelazar Savar, Eno Gove Minayorshim. Explique Rav Yosef, d'après tout le monde, on ne pourra pas faire comparaître en justice celui-même qui a fait la blessure. On ne va pas retarder son jugement. Donc ce qu'il doit à la personne qui l'a endommagé, cela est considéré comme Milve Alpe, comme dette orale. Et en tant que tel, d'après la première opinion, la dette orale est exigible des héritiers. Et d'après Rabbi Shimon ben Elazar, elle ne l'est pas. Rabba Amar, et d'après Rabba, de kula alma milve alpe enno gove min hayorshim, ve'acha b'milve aktiva batora ki ktiva bishtar kamifnege, tanaka masavar ki ktiva bishtar damia. Ve'Rabbi Shimon ben Elazar savar, lav ki ktiva bishtar damia. D'après tout le monde, la dette orale n'est pas exigible des héritiers. Néanmoins, celle-ci, étant donné qu'elle a été écrite dans la Torah, que celui qui blesse une personne va devoir payer les dégâts, c'est sur ce cas qu'il y a la divergence. D'après la première opinion, cette dette n'est plus considérée comme dette orale, elle sera considérée comme dette avec billet de reconnaissance, et en tant que telle, elle est exigible des héritiers. Par contre, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, cela reste une dette orale, et par conséquent, elle n'est pas exigible des héritiers. Et c'est là qu'on termine le cours du Daf Vav. À présent, Bezat Hashem, par la question, on commence celui du Daf Zayin. Demande la Gemara, Metive. Comment on a dit que dans notre Mishnah, la divergence entre la première opinion et Rabbi Yossi est à propos de Ve'im Izik Hayav, s'il a fait un dégât, est-ce qu'il va devoir le rembourser? Si telle est la divergence, donc normalement la halakha doit suivre la première opinion, étant donné que celle-ci a été dite d'une façon générale, sans préciser l'auteur de l'opinion. Et sur cela, Metive, on a vu ailleurs dans la Mishnah, Achofer Bor Beshut Arabim, celui qui a creusé un trou dans un lieu public, venafal alav shor vergo, et ensuite un bœuf est tombé dans le trou, et il a écrasé la personne qui était en train de le creuser, patour, le propriétaire du taureau n'a pas à rembourser les dégâts. Velood, et non seulement ce qu'on vient de dire, mais en plus, et la sheim met a shor, yorsheba alabor, chayavim le shalem dmeshor le bealav. Si à cause de la chute, le taureau est mort, les héritiers de celui qui a creusé le trou, vont devoir payer la valeur du taureau à son propriétaire. Donc on voit que d'après cette Mishnah, la halakha retient l'opinion de Rabbi Yossi, comme quoi celui qui a fait un dégât et ensuite il est mort, les héritiers vont devoir le payer. Répond la Gemara, Amar Rabbi Ila Amar Rav, que chez Ahmad Bedin. Répond sur cela Rabbi Ila au nom de Rav, dans cette Mishnah il s'agit du cas où avant de mourir, il a comparu devant le tribunal. Et du moment où le tribunal a tranché qu'il va devoir payer, cela devient Milve Bishtar, une dette écrite, et en tant que telle, elle est exigible des héritiers. Demande la Gemara comment cela? Ve'ahar goktani, c'est le taureau qui dans sa chute l'a tué, l'a écrasé. Donc quand est-ce qu'il a comparu devant le tribunal? Amar Rav Ada Bar Ahava, chassa ot refa'a. Répond sur cela Rav Ada Bar Ahava, le taureau en l'écrasant ne l'a pas tué, il l'a blessé, il l'a rendu mourant. Néanmoins, avant de mourir, celui-ci a comparu devant le tribunal. Demande la Gemara comment cela? Ve'amar Rav Nachman teni chaga met ve'kavro. Rav Nachman a dit que dans la Braïta de Chaga, c'était écrit, le taureau, dans sa chute, l'a tué, et en plus, il a entraîné avec lui de la terre, et donc il l'a même enterré. Répond la Gemara tout de même, Ve'il cheta diatve daine apuma de bira. Quand est-ce que la Mishnah a dit que la somme est exigible des héritiers, dans le cas où le tribunal se trouvait en haut du trou, et au moment même où le taureau est tombé, les juges ont tranché que celui qui a creusé le trou va devoir rembourser les dégâts du taureau. Dans ce cas, ça devient Milve Bishtar, dette écrite. C'est pour cela qu'elle est exigible des héritiers. Avant de continuer la nouvelle Braïta, on se trouve à la page Zayin Amoud Aleph, à la nouvelle Braïta qui commence 11 lignes avant la Mishnah. Je commence la Braïta. Tanur Rabanan, on a pris dans la Braïta, Hayotze Le'areg Mazin Alav Midam Chatato ou Midam Hashamo. Il y a une règle qui nous enseigne que celui qui a apporté un sacrifice expiatoire ou bien délictif, et avant que le sang du sacrifice soit aspergé sur l'autel, le propriétaire du sacrifice est mort. On ne pourra plus asperger le sang du sacrifice. Alors, nous dit la Braïta, celui qui est pris pour être tué, il ne sera pas considéré comme déjà mort, il est toujours vivant, et donc on pourra asperger pour lui le sang de son sacrifice expiatoire ou bien délictif. Mais si c'est à ce moment-là qu'il a commis un péché, on ne lui demandera pas d'apporter un sacrifice. Maïtama, pour quelle raison? Rabbi Yosef, nous dit Rabbi Yosef, étant donné que si on va retarder le châtiment jusqu'à avoir apporté un sacrifice pour sa nouvelle faute, entre-temps, ceci est un déni de justice, et donc ceci est interdit. Amarle Abaye a demandé Abaye à Rabbi Yosef, Yachi, dans ce cas-là, Afilu Rechanami. Pourquoi la Braïta nous dit au début que s'il a fauté avant qu'on le prenne pour le tuer, on va attendre et retarder le châtiment jusqu'à avoir aspergé le sang de son sacrifice? Dans ce cas-là aussi, ceci devient un déni de justice. Répond la Gemara que Gonjaya Zivroz avoir Botasha'a. Avant d'avoir été pris pour être tué, on avait déjà sacrifié son sacrifice. Il ne manquait plus qu'à asperger le sang. Et même qu'à présent il a été pris pour être tué, ceci ne va pas faire un retard si on attend le temps d'asperger le sang du sacrifice qui a déjà été égorgé. C'est pour cela qu'on va attendre. Demande la Gemara, aval en Zivroz avoir Mai lo. Mais si son sacrifice n'est pas encore sacrifié, il n'est pas encore égorgé, on ne va pas le sacrifier, on ne va pas faire retarder le châtiment. Alors, adetani chata botasha en niskakin lo. Pourquoi la Braïta a dû inventer un nouveau cas pour nous dire qu'on ne va pas retarder le châtiment dans le cas où il vient de faire un péché après avoir été pris pour être tué? Liflog velitne bedida. On aurait pu faire la différence dans le même cas. Comment cela? Bamed varim amurim shaya zevar zavuar botasha'a. Quand est-ce qu'on va sacrifier et asperger le sang de ton sacrifice? Uniquement s'il était déjà égorgé au moment où on a pris l'accusé pour le châtier. Aval en zevar zavuar, non. Mais si le sacrifice n'est pas encore égorgé, on ne va pas faire retarder le châtiment. Répond la Gemara, hachinami que amar. En effet, telle était l'intention de la Braïta. Comment cela? Bamed varim amurim. Quand est-ce qu'on va asperger le sang du sacrifice chez Azevar Zavuar Botasha'a? Si le sacrifice était déjà égorgé à ce moment-là, au moment où on a pris l'accusé pour le châtier, aval en Zevar Zavuar. Mais si la bête n'a pas encore été abattue, bien que la faute a été commise avant qu'on l'a pris pour le tuer, Naasa Kemishekhata Botasha'a ve en Niskakim Lo. C'est comme s'il a commis la faute à ce moment-là, après avoir été pris pour être châtié, et donc on ne va pas s'occuper de ton sacrifice. On ne va pas retarder le châtiment. On commence la Mishnah. Aisha shiyatzah le'areg, la femme qui a été prise pour être condamnée à mort. En mantinin la acheteled. Bien qu'elle est enceinte, on ne va pas retarder le châtiment. On ne va pas attendre qu'elle accouche. On va la tuer avec son fœtus. Aisha shiyashva ala mashber. Par contre, si elle était déjà prête à l'accouchement, elle était déjà percée, on va attendre qu'elle accouche. Haisha shenerga ne'enim b'se'ara. Be'ema shenerga asura ba'ana'a. La femme qui a été tuée, on pourra profiter de sa chevelure. Mais la bête qui a été tuée, on n'a pas le droit de profiter d'elle. On commence la Gemara. Pshita, Gufayi. Pourquoi la Mishnah doit préciser qu'on ne va pas attendre qu'elle accouche? On la tue avec son fœtus. Ceci est évident. Cela fait partie de son corps. Répond la Gemara, itzterir. La Mishnah devait le préciser. Pourquoi? Salka da'atach amina, j'aurais pu penser, ho'il v'ktiv ka'asher yeshit alav ba'al aisha, étant donné qu'il y a un verset qui nous dit, à propos de celui qui a frappé une femme enceinte, et à cause de cela, le fœtus est mort, nous dit le verset, celui-ci va devoir payer une amende que lui fera infliger le mari de la femme. Donc, puisque c'est le mari qui décide le prix, alors mamona de ba'al ou velo lifse de mine, kamashmelan. Le fœtus est un bien qui appartient au mari, et on ne pourra pas tuer la femme enceinte pour ne pas endommager le mari, kamashmelan. C'est pour cela que la Mishnah nous apprend qu'on va oui la tuer telle qu'elle. Demande la Gemara Ve'ema Achinami. Et en effet, pourquoi on n'apprend pas du verset qu'il faudra attendre qu'elle accouche, étant donné que le fœtus appartient au mari? Amar Rabbi Avahu, Amar Rabbi Yochanan, Amar Kra, nous dit Rabbi Avahu, au nom de Rabbi Yochanan. Car on va apprendre du verset, Umetu Gam Shneem, le rabot est avlad. C'est écrit dans le verset, à propos de l'adultère, on va tuer l'homme et la femme. Donc, vous dites le verset, et vont mourir eux deux aussi. Pourquoi le verset a rajouté, gam, aussi, le rabot est avlad? Pour faire inclure le fœtus. Demande la Gemara comment cela? Ce verset a déjà servi pour un autre commentaire. Quand est-ce que ceux qui ont fait de l'adultère seront tués uniquement si les deux sont égaux? Les deux ont atteint l'âge d'être punis. Par contre, si l'un des deux est encore enfant, donc il est exempté de la punition, même l'autre qui est déjà adulte ne sera pas tué. Et ça, on l'apprend du verset « Umetu gam shneem » On tue ou les deux ou personne. « Dvei Rabbi Hoshia » C'est l'opinion de Rabbi Hoshia. Répond la Gemara « Ki kaamart migam » Du verset « Umetu shneem » On va tuer les deux. De là, on apprend les propos de Rabbi Hoshia « Ou les deux ou personne. » Et du mot « gam » Les deux aussi. Cela vient inclure le fœtus. On reprend le passage de la Mishnah. Yashva la mashber vechulu. Si elle est prête à l'accouchement, on va attendre. Maïtama, pourquoi cela? Kevan de akar, gufa achrinaou. Étant donné que le fœtus s'est décroché de son corps, donc c'est un corps à part. Amar Aviuda, Amar Shmuel. Nous dit Aviuda au nom de Shmuel. Hayotza leareg, makin ota keneged bet erayon. Celle qui est prise pour être exécutée, si elle est enceinte, on va la frapper sur son ventre, sur la partie enceinte. Pourquoi cela? Kedesh yamut avla trila. Pour que l'enfant meure avant elle. Pourquoi cela? Kedesh elot avol edenevul. Étant donné que si on ne va pas le tuer, il va peut-être rester vivant après qu'on a tué la mère, et il va sortir de la morte, et ceci va la couvrir d'ignominie. Demande à Gemara, le memra de Hikadma ou Meta Berecha, on pourra comprendre ses propos qu'il y a possibilité que la mère meure avant l'enfant. Ve'akaimelan de Vlad Maït Berecha, on a appris ailleurs que c'est l'enfant qui va mourir en premier de Tnan, comme on l'a vu dans la Mishnah. Tinok ben Yomo, Nochel ou Manchil, le nouveau-né, même s'il n'a vécu que un jour, il va hériter et transmettre un héritage. Ve'amar Rav Shechet, et Rav Shechet a expliqué cela. Nochel benirseahem, le anchil, le achin minaav. S'il a des demi-frères qui sont frères que par son père, mais sa mère n'est pas la mère de ses frères, si ce nouveau-né n'existe pas, et la mère vient à mourir, ses beaux-fils ne vont pas l'hériter. Ce n'est pas leur mère. Mais par contre, si cet enfant existe, du moment où il a un jour, il va hériter sa mère, et s'il vient lui-même à mourir, il va transmettre l'héritage à ses demi-frères. Et de cette Mishnah, on a déduit Davka ben yom echad, aval ubarlo, de hu ma'it beresha, ve'en haben yoresh etimo bakever, le'anchil le'achin mina'av. Quand est-ce que le nouveau-né va hériter et transmettre l'héritage à ses demi-frères? Uniquement s'il est déjà né, mais tant qu'il était fœtus, si sa mère est morte, forcément lui il est mort avant sa mère, et donc il ne pourra pas après sa mort hériter sa mère pour transmettre l'héritage à ses demi-frères. Donc on voit d'ici que si la femme enceinte meurt, son fœtus meurt avant elle. Répond la Gemara, Hanim il est le Gabé Mita. Ceci est vrai à propos d'une mort naturelle. Aïde de Vlad Zutra Chiute. Étant donné que le fœtus est encore faible, il a une vie fragile. Aïle Tipat de Malachamavet ou Mechatech Lou le Simanim. La goutte de l'ange de la mort l'atteint à lui en premier et lui tranche ses conduites vitales. Aval Nerga. Mais celle qui n'est pas morte d'une mort naturelle, elle a été tuée. Himeta Berecha. C'est elle qui va mourir en premier. C'est pour cela que nous disait Ravuda, dans le cas où elle va être exécutée, donc son fœtus va rester vivant. Pour éviter cela, on va la frapper sur son ventre pour qu'il meure. Demande la Gemara ave uvda ou parkis atlat pirkuse. Comment tu dis qu'à propos d'une mort naturelle, le fœtus va mourir en premier? Ceci est arrivé qu'une femme enceinte est morte d'une mort naturelle, et ensuite, le fœtus a tressauté 3 fois, donc il est mort après elle. Répond la Gemara, Mide de Ave, Azana Valotaa de Mfarkaset. Ce n'est pas qu'il a continué de vivre après elle, simplement il était secoué de spasmes, comme cela arrive à propos de la queue du lézard. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, nous dit Rav Nachman au nom de Shmuel, Haisha Shiyashva la Mashber, Umeta Beshabbat. La femme enceinte qui a commencé le travail de l'accouchement, et avant que l'enfant ait sorti, elle est morte le jour du Shabbat. Mevi'in tzakin, ou mekar'im et kresa, ou motzi'in et avlad. On va apporter un couteau et ouvrir son ventre pour sortir l'enfant. Étant donné qu'il y a tout de même un peu de possibilité que l'enfant soit encore vivant, et donc on va essayer de le sauver. Demande la Gemara, pshita, ceci est évident, mai avid, couper le ventre d'une morte, Quel interdit y a-t-il ?
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On tourne la page, on est Zayin Amoud Bet. Mechater bevasar ou ? Est-ce qu'il y a un interdit de couper de la viande Shabbat ? Répond la Gemara, Amar Rava, lo nitzrecha la visakin derech reshut harabim. Même dans le cas où on n'a pas de couteau, il va falloir en chercher un par un endroit public. Et ceci est interdit, le jour du Shabbat, de faire passer quelque chose par un lieu public. Tout de même, pour peut-être sauver l'enfant, on va le faire. On va transgresser le Shabbat. Demande la Gemara, Umay kamashmelan, de misfeka mechal lelinan shabta. Et en fin de compte, quel est le chidouche de Shmuel? Que même en cas de doute, si on va réussir à le sauver, tout de même on va transgresser le Shabbat. Ceci a déjà été dit, Tanina, Mishen nafla lav mapolet, celui sur lequel la maison est tombée, safek usham, safek enosham, safek chay, safek met, safek nani, safek Israël. On ne sait pas s'il était là-bas à ce moment-là ou pas. Et même s'il était là-bas, on ne sait pas s'il est toujours vivant ou bien s'il est déjà mort. Et même s'il est vivant, on ne sait pas si c'est un non-juif, sur lequel, même pour le sauver, on ne pourra pas transgresser le Shabbat, ou bien si c'est un juif. Tout de même, malgré tous ces doutes, Mefakrim alav et agal. On va soulever les pierres de sur lui, pour essayer de le sauver. Répond la Gemara, Maoud de Tema Hatamu de Avele Chezka de Chiyuta. Avant la Chadelo Avele Chazaka de Chiyuta Meikara et Malo Kamashmelan. J'aurais pu penser, uniquement dans le cas de la Mishnah, où celui-ci qu'on essaye de sauver était déjà vivant. Donc, on supposera que l'état antérieur continue d'exister. Mais par contre, dans le cas de Shmuel, où le fœtus n'avait pas d'état antérieur, il n'a jamais été vivant, peut-être que dans ce cas-là, dans le doute, on ne va pas transgresser le Shabbat. C'est pour cela que Shmuel nous apprend que même dans ce cas-là, on va transgresser le Shabbat. Aïcha Shenerga Vechule. La Mishnah avait dit, la femme qui a été exécutée, on pourra profiter de ses cheveux. Demande la Gemara pourquoi cela, Vehamai, Isure Ana Ninu. Ceci fait partie de la catégorie des choses qui sont interdites de profiter d'eux. Amarav Beomeret Tnusari Lebeti. Nous répond Rav dans le cas où elle dit « Donnez mes cheveux à ma fille ». Demande la Gemara et alors « Ilu Amra Tnuyadi Lebeti Miyavinanla » Et si avant de mourir elle a dit « Donnez ma main à ma fille », est-ce qu'on va lui donner sa main ?« Amarav Bepea Nochrit » Répond sur cela Rav. Dans notre Mishnah, il ne s'agit pas de ses vrais cheveux. Ceux-ci, en effet, sont interdits. Il s'agit de sa perruque. Dans ce cas-là, si avant de mourir, elle a dit « Donnez ma perruque à ma fille », on va la lui donner. Demande la Gemara « Tama de Amratnu, halo Amratnu, gufaou ou mitzar » C'est que si avant de mourir, elle a dit « Donnez à ma fille », qu'on a le droit de les donner à sa fille. Mais sinon, si elle n'a rien dit, cette perruque est interdite, étant donné qu'ils feront partie de son corps. Vermi Baele, le Rabbi Yossi Brabchanina. Comment on est certain de cette supposition? Rabbi Yossi Brabchanina avait un doute sur cela de Baer Rabbi Yossi Brabchanina, car a demandé Rabbi Yossi, le fils de Chanina, Sehar Nashim Tetkaniot Maou, à propos de la ville apostate. Alors tous les habitants de la ville qui ont apostasié vont être tués et leurs biens vont être brûlés. Ils sont interdits à tout profit. Par contre, les tzadikim, les justes de la ville, eux-mêmes ne seront pas punis, mais leur bien, oui. Leur bien va être brûlé avec toute la ville. Donc, a demandé Rabbi Yossi Brabchanina, que va-t-il se passer avec les cheveux des femmes justes? Est-ce que ces femmes pourront les garder, ou bien ils vont devoir être brûlés? Vama Rava, et Rava a expliqué la question, Bepa Nochrit Kamibaele. La question était à propos de la perruque. Donc, on voit que bien que la femme en question n'a pas dit tnou, elle n'a rien dit à propos de sa perruque. Tout de même, il y a possibilité que ceci ne fait pas partie de son corps. Et donc c'est un bien qu'il faudra brûler. Alors pourquoi chez nous on a dit que c'est uniquement dans le cas où elle a dit tnou, donner la perruque à ma fille, que celle-ci ne fera pas partie de son corps? Répond la Gemara, qui kamibael et le Rabbi Yossi Brabchanina de Talib Sikta? Quand est-ce que Rabbi Yossi Brabchanina a pensé que même qu'elle n'a rien dit à propos de sa perruque, tout de même il y a possibilité que celle-ci ne fait pas partie de son corps, uniquement quand la perruque n'est pas sur sa tête. Elle est pendue à un crochet quelconque. En revanche, Acha, dans notre Mishnah, de Mar Barba, la perruque est attachée à elle. Dans ce cas-là, Tama Amratnu, Halo Amratnu, Gufao ou Mitzar. Ce que si elle a précisé, Tnou, donnez la perruque à ma fille, que celle-ci ne fait pas partie de son corps. Mais si elle n'a pas dit Tnou, étant donné que la perruque se trouve attachée sur elle, elle fait partie de son corps. Demande la Gemara, Kashiale le Rav Nachman Bar Yitzchak, à propos de la réponse de Rav. Rav Nachman Bar Yitzchak posait une question, va Dumia de Behemaktane, Matam Goufe, Af Hachiname Goufe. Puisque la Mishnah dit en une phrase qu'on pourra profiter des cheveux de la femme, mais on ne pourra pas profiter de la bête, de même qu'à propos de la bête, quand on dit qu'on ne pourra pas profiter d'elle, cela s'entend d'une partie de son corps, pareil à propos de la femme, comme quoi on a dit qu'on pourra oui profiter de ses cheveux, cela s'entend de ses cheveux naturels, et non pas d'une perruque. Et là, Marav Nachman, Zou Mitata Osrata, de Zou Gmardina Osrata. Alors Rav Nachman nous donne une nouvelle réponse. Un être humain qui a été condamné à mort, tant qu'il n'a pas été exécuté, lui-même n'est pas interdit. Donc ce qui va le rendre interdit, c'est l'exécution même. Dans ce cas-là, on va dire que l'exécution interdit ce qui a été exécuté. Par contre, les cheveux qui ne peuvent pas mourir, ils restent les mêmes avant ou après la mort. Donc ils ne font pas partie de l'exécution, et en tant que tels, ils ne sont pas inclus dans l'interdit. C'est pour cela que la Mishnah nous dit, sur les cheveux naturels de la femme, ils ont permis au profit. Par contre, à propos de la bête, même avant l'exécution, du moment où le jugement l'a condamnée à mort, déjà elle devient interdite. Et même si par la suite elle n'a pas été exécutée, elle a été égorgée rituellement, tout de même elle est interdite. Donc puisque c'est la condamnation qui l'interdit, celle-ci concerne n'importe quelle partie de son corps, c'est pour cela que la bête est entièrement interdite. Tani Levi Kavata de Rav, Tani Levi Kavata de Rav Nachman Bar Yitzchak. Levi a trouvé une braïta qui approuvait les propos de Rav, et il en a trouvé une autre qui approuvait les propos de Rav Nachman Bar Yitzchak. Tani Levi Kavata de Rav. Voici la braïta de Levi qui approuvait les propos de Rav. Aisha Sheyotzah Le'arek Ve'amratnu Se'ari Leviti. La femme qui a été prise pour être exécutée, elle a dit, donnez mes cheveux à ma fille, Notnim, on va les lui donner. Meta, mais si elle est morte, avant d'avoir dit Tnou, avant d'avoir dit quoi que ce soit à propos de ses cheveux, en notnim, on ne pourra pas les donner. Pourquoi? Mipne shamet asur be'ana, étant donné qu'on n'a pas le droit de profiter d'un mort. Donc on va demander sur cette braïta, pshita, évidemment que c'est ça la raison pourquoi la braïta doit préciser mipne shamet asur be'ana. Donc forcément, la braïta voulait inclure autre chose, et là, chez noye amet asurim be'ana. Dans cette braïta, il ne s'agit pas de ses cheveux naturels, mais d'une perruque. Et tout de même, si avant de mourir, elle n'a pas dit « Donnez-la à ma fille », celle-ci est interdite, étant donné que même Noye Ahmet, les choses qui se trouvent sur le cadavre pour l'embellir, ceux-ci font partie du mort et donc sont interdits au profit. Donc on voit comme Rav que même la perruque est interdite. Tania Kavate de Rav Nachman Bar Yitzchak et la braïta qui approuve les propos de Rav Nachman Bar Yitzchak, celle-là dit exactement comme Rav Nachman Bar Yitzchak. Aisha shemeta ne'enim b'se'ara, be'ema shenerga asura be'ana, uma efresh ben zelaze, zoum mitata osrata, bezouk mardina osrata. La femme qui est morte, ses cheveux sont permis au profit. Par contre, la bête qui a été tuée, on n'a pas le droit de profiter d'elle. Et quelle différence y a-t-il entre celle-là et celle-là? Celle-là, la femme, c'est le décès qui l'a rendue interdite. Le décès ne concerne pas les cheveux. En revanche, la bête, c'est la condamnation qui l'a rendue interdite. La condamnation la concerne intégralement, cheveux inclus. On a terminé le premier chapitre. Hadran Alach, Akol Ma'arichin. On espère, Bezrat Hashem, réviser le chapitre de Akol Ma'arichin. On commence le deuxième chapitre. En Nerachim Pachot Misela, Velo Yeter Al Chamishim Sela. On reprend le sujet du vœu estimatif, nous dit la Mishnah. Celui qui a dit sur lui-même ou sur un autre, Erech Alay. Je m'engage à donner la valeur estimative de un tel. On ne va pas évaluer la valeur de la personne sur qui a été prononcé le vœu. Sa valeur estimative a été explicitée dans le verset. Sur cela, nous dit la Mishnah, cette valeur estimative, dans aucun cas, elle sera moins d'un Sela, et dans aucun cas, elle sera plus de 50 Sela. Sela Ketsad, quand est-ce qu'on va appliquer la valeur minimale de 1 Sela? On a déjà vu auparavant que la valeur de 1 Sela est dit à propos d'un pauvre, celui qui n'a pas d'argent, même s'il a prononcé le vœu sur une personne qui en vaut beaucoup, il va donner que un Sela. La Mishnah précise, Natan Sela ve'eshir, eno noten klum. Après avoir donné un Sela entier, même si à présent il s'est enrichi, il ne doit rien du tout. Par contre,
פחות מסלה וישיר, נותן 50 סלה. S'il n'a pas encore donné un sela entier, et il s'est enrichi, si en vérité son vœu a été prononcé sur une personne qui en vaut 50, il va devoir donner tous les 50. Maintenant, que va-t-il se passer dans le cas suivant? Il a prononcé le vœu sur une personne qui en vaut 50, et il est nécessiteux. Par contre, il n'a pas que un sela, Hayubi Adav Khamer Slaim, il a 5 slaim. Alors, Rav Meir Omer et Noten et la Achat, Rahim Omrim, Noten et Kulam. D'après Rabbi Meir, il va donner que un sela. D'après Chachamim, il va donner les 5. La Mishnah se répète. La Gemara va l'expliquer pourquoi. En nerachim pachot misela, velo yeter al chamishim sela. La valeur estimative n'est jamais moins d'un sela et jamais plus de 50 sela. On commence la Gemara. En nerachim pachot misela minalan. D'où est-ce qu'on sait que le vœu estimatif ne sera jamais moins de un sela? Dichtiv, comme dit le verset. Rol erkecha yé beshekel akodesh. Toutes tes estimations vont être en shekel du sanctuaire. On va commenter ce verset. Kol erchin chata ma'arich lo yu prutin mishekel. À propos de n'importe quel vœu estimatif que tu as prononcé, même dans le cas où il s'agit d'un nécessiteux, il ne pourra pas donner moins d'un shekel. Un shekel du sanctuaire égale un sela. Velo yeter al chamishim slaim, dichtiv chamishim. Et pas plus de 50 slaïm, étant donné que la valeur estimative la plus haute que le verset a fixée, c'est celle de 50 slaïm. Hayubi Adav Chamisha Vechulu. On a vu dans la Mishnah la divergence entre Rabbanan et Rabbi Meir. Maïta Amar de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir que bien qu'il possède 5 pièces, il va en donner que une? Nous dit Rabbi Meir, Ktiv Chamishim Vektiv Shekel. O Chamishim O Shekel. À propos de celui qui vaut 50 shekels, la Torah a donné deux possibilités. Ou bien, s'il a les moyens, 50 shekels, ou bien sinon un shekel. Mais il n'y a pas de troisième possibilité. Ve Rabbanan, et Rabbanan vont répondre à ça. Ha'ou le cholechin shata marich, lo yu prutim mi shekel ou da'ata. La Torah n'a pas donné comme possibilité un shekel. Ce que la Torah a dit, c'est que au minimum, il faudra donner au moins un shekel. Mais cependant, Echa de Hitlé, s'il a plus qu'un shekel, Amarkra, sur lui, le verset a dit, Asher Tastig Yad Anoder, d'après les moyens de celui qui a prononcé le vœu, Vare Adomasaget, et celui-ci a les moyens de donner 5 shekels, de Rav Meir. Et qu'est-ce que Rav Meir apprend de ce verset? Haou Yad Anoder Velo Yad Anidar Hudata. À propos du vœu estimatif qui concerne deux personnes, celui qui a prononcé le vœu et la personne sur laquelle le vœu a été prononcé. Donc, le Noder, celui qui a fait le vœu, et le Nidar, j'ai fait un vœu en disant, Erech ploni alay. Je m'engage à donner la valeur estimative de Reuven. Donc moi je suis le noder, celui qui a prononcé le vœu, et Reuven est le nidar, celui sur lequel le vœu a été prononcé. Alors quand on a dit qu'on va donner un shekel, à propos du nécessiteux, cela dépend de qui? De celui qui a prononcé le vœu, ou bien de celui sur lequel le vœu a été prononcé? C'est ça que vient nous apprendre le verset, Asher tasig yad anoder. Ceci dépend des moyens de celui qui a prononcé le vœu. Donc si celui qui l'a prononcé est riche, néanmoins il l'a prononcé sur un pauvre, il va donner 50 shekels. Verabanan, et Rabbanan vont répondre à cela. En effet, on apprend le commentaire de Rav Meir de ce verset, notamment l'avimelech matmina de Echa de Adom Aseget Shkolmine. En même temps, on pourra comprendre de ce verset que tout dépend des moyens de celui qui a prononcé le vœu. Donc s'il a les moyens de donner 5 pièces, c'est 5 pièces qu'il va devoir donner. Amar Ravada Barava, nous dit Ravada, le fils de Ahava, Hayubi Adav Chamesh Laim, Vamar Erki Alay, Vechaza Vamar Erki Alay, celui qui avait en sa possession 5 slaim, et il a dit Erki Alay, je m'engage à donner ma valeur estimative, et il s'est répété une deuxième fois en disant Erki Alay, je m'engage une deuxième fois, Venatan Arba Lashnia, Vechad Larishona, Yatsa Yedeshtehen. Et ensuite, il a donné 4 pièces pour le deuxième vœu et une pièce pour le premier. Il est entièrement acquitté. Maïtama, pour quelle raison? Balchov meuchar shekadam vegava ma shegava gava. Celui qui a emprunté une somme de 2 personnes différentes. Disons qu'il a emprunté en premier de Reuven et ensuite de Shimon. Il va devoir rembourser d'abord à Reuven et ensuite à Shimon. Et tout de même, on tient que Balchov meuchar shekadam vegava, le deuxième prêteur qui s'est fait rembourser en premier, et à présent que le premier prêteur veut se faire rembourser il ne reste plus rien, celui-ci ne pourra pas venir chez le deuxième en disant qu'il a la priorité. Étant donné qu'on va dire « Mache gava gava », le fait que le deuxième prêteur t'a devancé, ce qu'il a pris est pris. Donc à propos du deuxième vœu, on ne pourra pas dire qu'il n'est pas acquitté, étant donné qu'il n'a pas donné tout ce qu'il possédait, de donner que 4 pièces et pas 5 pièces, étant donné que toutes les 5 pièces étaient hypothéquées au premier vœu. Alors, « Be'idna de Yaïv le Shnia », quand il a donné pour le deuxième vœu, « Meshabed la Rishona », le tout était hypothéqué au premier. Donc il n'avait pas à donner plus que ce qu'il a donné. Et malgré cela, ce qu'il a donné, il a pu le donner. Étant donné que « Balchov Mouhar Shekadam Vegava »« Mashegava Gava » le deuxième vœu qui s'est fait payer en premier, ce qu'il a pris est pris. Et à présent, « Be'idna de Yaïv le Rishona », quand il a donné la pièce qui lui restait pour le premier vœu, on ne pourra pas dire qu'il n'est pas acquitté étant donné qu'il n'a pas donné assez. Tout l'étlé, il n'a plus rien. C'est la seule pièce qui lui reste.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.